VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 30 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Entretien aujourd'hui à Washington entre le président Donald Trump et son homologue nigérian, Muhammadu Buhari.
Au Niger, menace de fermeture des cités et restaurants des universités publiques du pays ce lundi.
Le président malgache, Eri Rajaonarimampianin, a rejeté catégoriquement hier les appels à la démission de l'opposition.
Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, en Corée du Nord, les 2 et 3 mai, après le sommet historique entre les deux Corées.
Le nouveau secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, réaffirme les menaces du président Donald Trump au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, sera reçu aujourd'hui par le président américain Donald Trump pour une visite axée essentiellement sur les problèmes de sécurité et d'économie. Précision d'Idriss Fall.
Le président Muhammadu Buhari sera le premier leader africain reçu à la Maison-Blanche sous l'administration Trump. Les discussions entre les deux hommes porteront sur la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, le développement économique et démocratique au Nigeria. Peu après son arrivée au pouvoir en 2015, M. Buhari avait reproché au président Barack Obama d'avoir refusé de vendre des armes à Abuja pour lutter contre Boko Haram. Prenant le contre-pied, l'administration Trump a autorisé la vente au Nigeria d'avions Super Tucano d'une valeur de 496 millions de dollars, des appareils de surveillance et de soutien tactique qui doivent être livrés en 2020. Aussi, M. Buhari, 75 ans, qui cherche à être réélu à la présidence en février 2019, va sans doute souligner son engagement envers la démocratie dans son pays.
Une opération militaire d'envergure est en cours dans le bassin du lac Tchad pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram, a annoncé hier le ministre nigérien de la Défense, Kala Moutari, sur la télévision privée Ténéré de Niamey. Une fois terminée, cette opération permettra également d'installer nos systèmes de sécurité et de favoriser le retour des milliers de personnes ayant fui depuis 2015 les îles du lac, a encore déclaré le ministre. Bien que totalement affaibli, Boko Haram représente néanmoins une menace réelle, a estimé le ministre, sans donner de précision sur le début et la fin des opérations, ni sur les contingents qui y participent.
Toujours au Niger, la crise scolaire et universitaire s'accentue du fait de la persistance de la grève illimitée des élèves et étudiants pour exiger de meilleures conditions de vie et d'études. Le gouvernement menace de fermer ce lundi les cités et restaurants des universités publiques du pays. Correspondance d'Abdulrazak Idrissa à Niamey.
C'est un communiqué sous forme d'ultimatum que le gouvernement a rendu public alors que le mot d'ordre de grève illimitée lancé par la structure nationale des scolaires se poursuit. Si ce lundi à 17h temps universel, les étudiants ne reprennent pas les cours, les cités et restaurants des 8 universités publiques du pays seront fermés. En réponse à cette intention annoncée, la structure nationale des scolaires a demandé à tous les élèves candidats au brevet d'études du premier cycle de boycotter les épreuves sportives de cet examen qui débute ce lundi matin, signe de la radicalisation des positions de part et d'autre, alors que plusieurs voix s'élèvent, les parents d'élèves et étudiants notamment, pour appeler à un dialogue. Près de 250 scolaires ont été arrêtés depuis le début de ce bras de fer, dont les principales causes sont l'exigence des étudiants du paiement de leur bourse et la réhabilitation de 5 de leurs camarades exclus en mars dernier par le conseil de l'université. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
Pour la première fois, Moïse Katumbi, l'opposant congolais en exil depuis plus d'une année, a rencontré et parlé avec certains Congolais de l'Est de la RDC, mais dans un pays voisin, le Rwanda. Moïse Katumbi s'est voulu rassurant à cette occasion et a promis son retour en République démocratique du Congo devant la communauté congolaise vivant au Rwanda et des centaines de Congolais qui ont traversé en masse la frontière rwandaise. De Kigali, compte rendu de Charlie Kasereka.
Des délégations composées des étudiants, des fanatiques de l'équipe des Mazembe, ainsi que des membres des partis politiques de l'opposition qui composent la plateforme électorale dénommée Ensemble, créée récemment par Moïse Katumbi. Devant cette foule, le candidat déclaré à la présidentielle a rassuré sur son retour en RDC dans les prochains jours, selon lui, pour déposer sa candidature aux élections prévues en décembre 2018. Je demande combien veulent que je puisse rentrer au pays, qu'il puisse se manifester. Réunis dans l'amphithéâtre de la paroisse Saint-Paul de Kigali, au moment des questions-réponses, une dame venue d'Ouvira, à plus de 200 km de Kigali, pose sa question à Katumbi. Tu n'as pas peur qu'à ton retour au pays, tu sois arrêté et mis en prison? Katumbi répond en disant, je n'ai pas peur de ça. Ceux qui sont au pouvoir préparent cette manœuvre parce qu'ils ont peur de ma personne. Mais je sais que vous, les peuples, vous êtes plus forts qu'eux et vous allez me soutenir. Dans cette ambiance qui ressemble à une pré-campagne électorale, Katumbi, une fois élu, promet d'installer son quartier général à l'est de la RDC pour en finir avec la guerre dans cette partie, selon ses propres dires, dans 90 jours. En exil depuis plus d'une année maintenant, l'opposant Katumbi se trouve au Rwanda où il est invité au forum Mo Ibrahim. Cette année, c'est l'ex-présidente de Liberia, Ellen Johnson, qui a reçu ses prix après avoir cédé démocratiquement les pouvoirs à l'ex-footballeur George Weah. Charlie Kasereka, des retours de Kigali pour VOA Afrique.
À Madagascar, le président Herry Rajaonarimampianine a rejeté catégoriquement hier les appels à la démission de l'opposition. Depuis 8 jours, les opposants manifestent dans la capitale contre les nouvelles lois électorales. Le point avec Jean-Roger Bion.
Je suis président par la volonté du peuple malgache. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour moi. C'est vraiment trahir cette volonté que de démissionner, a déclaré hier le président malgache. Il n'a pas annoncé s'il va briguer un second mandat à la fin de l'année. Une nouvelle manifestation de l'opposition est prévue aujourd'hui. Il y a une semaine, une première marche interdite par les autorités avait dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes ont été tuées. Les opposants dénoncent de nouvelles lois électorales et ont saisi la haute cour constitutionnelle. Les anciens présidents Marc Ravalomanana et André Rajoelina, 2 anciens ennemis, font cause commune maintenant contre le régime. Ils ont déjà laissé entendre qu'ils vont se lancer dans la bataille. L'ONU a dépêché sur place un émissaire, le Sénégalais Abdoulaye Batili, qui a pour mission de tout faire pour éviter une nouvelle crise sur la Grande Île.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, va visiter la Corée du Nord les 2 et 3 mai après le sommet historique entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Hier, les officiels sud-coréens ont déclaré que Kim Jong-un envisage d'inviter des experts et des journalistes de Corée du Sud et des États-Unis à venir observer sur place la fermeture en mai de son site de test nucléaire.
Et le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit voir une vraie opportunité de progrès suite à son tête-à-tête avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen. M. Pompeo a affirmé qu'une solution avec Pyongyang devait passer par la diplomatie. Le point avec Idriss Fall.
Mike Pompeo a rencontré le dirigeant nord-coréen durant le week-end de Pâques alors qu'il était encore directeur de la CIA. Mon but, c'était d'essayer de voir s'il y avait une vraie opportunité de progrès. Je pense qu'il y en a une, a-t-il affirmé dans une interview diffusée hier dimanche. Cependant, M. Pompeo se veut vigilant car ne croyant pas aux mots, mais cherche des actions concrètes sur un mécanisme complet, vérifiable et irréversible. Séoul a révélé hier que le dirigeant nord-coréen propose de fermer son site d'essai atomique en mai et d'inviter des experts américains pour vérifier. Vendredi dernier, à l'issue d'un sommet historique, Kim Jong-un et Moon Jae-in ont promis de parvenir à une péninsule non nucléaire. John Bolton, conseiller du président Trump en matière de sécurité nationale, a précisé que Washington pourrait se baser sur l'accord intercoréen de 1992 où Pyongyang s'est engagé à abandonner ses armes nucléaires ainsi que l'enrichissement de l'uranium et le traitement du plutonium. Le président Donald Trump doit rencontrer les leaders nord-coréens d'ici juin pour un autre sommet historique.
D'autre part, le secrétaire d'État Pompeo a dit clairement hier que le président Donald Trump envisage de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien le mois prochain si cet accord n'est pas modifié tel que le souhaitent les États-Unis. Monsieur Pompeo, au Moyen-Orient pour sa première visite en tant que chef de la diplomatie américaine, a déclaré en Israël qu'à la différence de ses prédécesseurs, Monsieur Trump à une stratégie globale sur l'Iran qui vise à contrer tout un éventail de menaces émanant de Téhéran. Monsieur Pompeo avait visité auparavant l'Arabie Saoudite. Pour sa part, l'Iran a souligné qu'il n'a aucune intention de modifier l'accord. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Les groupes français Orange et Vivendi veulent accélérer le développement du cinéma en Afrique. Ils ont créé un partenariat pour le réseau de salles Canal Olympia dans près d'une dizaine de pays sur le continent. David Kessler, directeur général d'Orange Studio, a indiqué qu'il produit 6 à 7 films africains chaque année qui sont présentés lors de festivals. La hausse du dollar a provoqué la baisse des prix des métaux précieux. L'or est passé sous la barre des 1 320 $. L'argent et le palladium ont suivi la même tendance. Cette hausse du dollar s'explique notamment par le relèvement des taux d'intérêt du Trésor américain et l'absence d'escalade dans les tensions géopolitiques, notamment la tenue du sommet intercoréen. Les États-Unis ont aussi annoncé un report de sanctions sur le groupe russe Rusal, premier producteur d'aluminium. La croissance américaine s'est accélérée à un rythme supérieur aux prévisions. Le produit intérieur brut a progressé de plus de 2% entre janvier et mars dernier, d'après le département du commerce. Le produit intérieur brut reflète des contributions positives du côté des investissements, de la consommation, des exportations et des investissements dans les stocks.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Tournoi UFOA des moins de 20 ans au Libéria, la Guinée et le Sénégal éliminés au premier tour.
Comme lors de la dernière édition au Ghana, la Guinée ne verra pas le second tour de ce tournoi. Le Sili Junior s'est incliné 4-2 face au Sénégal. Et comme la Guinée, le Sénégal aussi est éliminé de la compétition. Dans ce groupe B, c'est le Mali et la Gambie qui passent en demi-finale. Les Gambiens ont arraché leur qualification grâce à leur victoire de 1-0 devant les jeunes Maliens. La première demi-finale mettra aux prises donc mercredi prochain la Côte d'Ivoire à la Gambie.
En Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, sacré champion.
Vainqueur de la Ligue africaine des champions en 2016, le club de Pretoria vient de récupérer sa couronne sur le plan national en dominant l'Ajax Cape Town 3-1 lors de la 29e journée du championnat. Les Brésiliens se sont en effet assurés leur 8e titre de champion d'Afrique du Sud. À une journée de la fin de l'épreuve, les hommes de Pisso Mosimane ne peuvent plus être rejoints par les Orlando Pirates, deuxième à 7 points. De leur côté, les Kaizer Chiefs sont troisième, tandis que le tenant du titre, Wiz Bives, pointe à la 10e position.
Élisée, au Togo, on a eu droit à la finale de la Coupe nationale.
Et surprise, Idrissa, c'est une première, premier titre dans cette compétition pour le Gomido de Kalimé. Succès net et sans ma vue, 3-0 aux dépens du tenant du titre et leader actuel du championnat, Koroki de Chamba. Un succès acquis grâce notamment à un doublé de Tove Ome. Gomido représentera donc le Togo la saison prochaine en Coupe de la Confédération.
Football toujours, mais chez les dames avec le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2018.
Oui, et d'ailleurs les grosses cylindrées exemptées du premier tour vont faire leur entrée. L'Algérie affrontera l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire sera face au Mali, la Gambie rencontrera le Nigeria, le Congo se frottera au Cameroun, le Kenya défiera la Guinée équatoriale, le Lesotho se rendra chez son voisin sud-africain et la Zambie fera face au Zimbabwe. Ce second tour aura lieu du 4 au 9 juin prochain. Précisons que la phase finale est prévue du 17 novembre au 1er décembre prochain au Ghana.
On passe au cyclisme avec le Tour du Sénégal et Dan Craven remporte cette édition de 2018.
Effectivement, le Namibien remporte la 17e édition de ce Tour du Sénégal devant Abderrahmane Hamza. Ricky Nobel complète le podium. La dernière étape courue dans les rues de Dakar a été remportée par Islam Mansouri, vainqueur de l'édition 2017. Le coureur algérien s'est imposé au sprint devant le Rwandais Bonaventure Uzeyimana, quatrième au classement général. Et puis, la NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats des playoffs, notamment la victoire de Houston dans le match numéro 1 des demi-finales de Conférence Ouest.
Le score a été de 110 à 96 avec ses 41 points. James Harden, encore lui, n'a laissé aucune chance à Utah. De son côté, LeBron James a marqué 45 points pour éliminer Indiana, 105 à 101, et mener encore les Cavaliers de Cleveland au second tour des playoffs de la Conférence Est.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les députés de la majorité présidentielle vont adopter aujourd'hui le projet de loi constitutionnelle pour la mise en place de la 4e République. Parmi ces nouvelles clauses, l'âge minimum pour être candidat à la présidence de la République qui va être fixé à 45 ans au lieu de 35 actuellement. Quelle réaction de quelques responsables des organisations des jeunes et des partis politiques dans ce reportage d'André Kotmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Plus que quelques heures et le sort des Tchadiens sera scellé. La 4e République sera mise en marche et le compteur d'Idriss Déby au pouvoir depuis 28 ans sera remis à zéro. Les députés de l'opposition refusent de participer à ce qu'ils qualifient d'une entreprise de destruction nationale. Déby aura un autre mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. Le rêve de jeunes d'accéder à la magistrature suprême va voler en éclats si cette nouvelle constitution venait à être adoptée. Car il faut avoir 45 ans à partir de 2021 pour prétendre diriger le Tchad. Nadio Kaina apporte parole du mouvement citoyen INA s'est dit surpris et rejette cette constitution.
Le président Déby lui-même a pris le pouvoir quand il avait moins de 40 ans. Nous avons Thomas Sankara qui a pris le pouvoir quand il avait 33 ans. Et quand nous voyons l'exemple de l'Europe aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui a 39 ans. C'est un jeune. Nous sommes vraiment surpris. Et nous rejetons les propositions ici de ce forum. Pour nous, cela vise clairement à éliminer certains candidats qui sont potentiellement dangereux pour le régime en place.
Pour Grâce Elta, membre du projet pour l'alternance crédible au Tchad, le président Déby est un homme égoïste.
Ça me choque, hein, parce que déjà, on sait que la durée de vie au Tchad, c'est de 45 ans. Déby nous empêche, parce que là, il nous étouffe complètement, il nous tue. Alors qu'il y a des jeunes ambitieux, à mon exemple, ça veut dire que Déby, il n'est pas soucié de la jeunesse tchadienne, il n'est non plus soucié de son pays, mais c'est un homme égoïste, en un seul mot. Un homme égoïste qui veut faire de ce pouvoir une dynastie.
Ali Gabriel Golor, porte-parole de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, estime que cette modification de la Constitution par voie parlementaire voulue par le président Déby et ses courtisans est une guerre livrée contre le peuple tchadien.
Déby cherche absolument par tous les moyens à dresser les nordistes contre les sudistes. C'est l'une de ses préoccupations, il faut le dire. Ces sbires ont commencé à appliquer les décisions contenues dans la Constitution alors que cette Constitution n'est même pas adoptée.
Le président de l'Alliance socialiste pour le renouveau, Djarma Baltazar, trouve normale cette décision.
45 ans à compter de 2021 est raisonnable puisque beaucoup ont triché en se falsifiant les pièces d'état civil pour réduire leur âge pour se dire trop jeunes et que maintenant ils sont tombés dans leur propre piège, ils peuvent que s'en prendre à eux.
Convaincu que le référendum est la voie appropriée d'adoption pour toute nouvelle constitution, les députés de l'opposition réaffirment leur décision de boycotter la séance où sera voté ou non le projet de la constitution d'Idriss Déby Itno. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, après 10 jours d'investigation de la base des données avec le comité d'experts, ces derniers ont conclu que le Mali dispose d'un fichier électoral fiable avec lequel des élections peuvent être organisées. Ces conclusions ont été partagées avec le Premier ministre et tous les acteurs intervenants dans le processus électoral, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Très contesté par la classe politique malienne, surtout l'opposition, le fichier électoral a été soumis à un examen minutieux du comité d'experts internationaux et nationaux. À la fin de leurs travaux de 10 jours, ils reconnaissent dans leurs conclusions que le fichier électoral du Mali est fiable. Dr Kamel Faka, expert OIF.
Nous pouvons dire clairement que ce fichier est bon. Franchement, par l'utilisation de l'AFIS, Automated Finger Inspection System, qu'on a au niveau du CETEDEC, le risque d'avoir des doublons sur cette liste, on n'a presque pas constaté. Parce que je crois que si nous voyons ce qui est fait de bien, est-ce qu'il fallait dire quelque chose d'autre pour satisfaire aux gens? Nous avons fait des vérifications. On aurait pu ne pas nous permettre d'aller au CETEDEC. Nous y sommes allés. Nous avons procédé aux investigations. Et nous avons vu que ce système est bon. Est-ce qu'il ne fallait pas le dire?
Après l'audit du fichier, les conclusions des travaux effectués par les experts internationaux et les autres membres du comité d'audit composé d'experts nationaux ont été remises au Premier ministre, Mamadou Seydou Traoré, représentant de la société civile.
Je sais ce qui était dans la base du RAVEC qui sert à alimenter les fichiers électoraux. À partir également des travaux des commissions administratives, le DGE travaille sur ces deux éléments. Avec le croisement qu'il fait, ça lui permet d'établir une base de données qui peut avoir de petites erreurs, mais avec le CHER, on arrive à corriger les insuffisances. Ce matin, vous avez remarqué que par rapport au doublon, il y avait le doublon zéro. Vous avez remarqué que tous les électeurs qui devraient figurer dans la base de données de la DGE figuraient en entier.
Les 10 jours de travaux d'audit de la base de données se sont déroulés à la délégation générale aux élections, sous la supervision de la CENI. Amadou Ba, président de la CENI.
Nous avons voulu, parce que c'est une forte attente de la classe politique notamment, pour se rassurer pour aller aux élections, avoir une base fiable pour les élections, c'est d'abord le fichier électoral. Et nous avons dit au départ, c'était des questions sans tabou. Et nous avons assuré et nous avons mis tout en œuvre pour que toutes les requêtes des auditeurs soient suffisamment renseignées par les autorités en place. Et vous avez constaté, et on vous l'a dit, qu'il y a eu tous les auditeurs qui se sont déportés au niveau du CITEDEC. Parce que l'autre fichier électoral est arrimé et adossé au fichier CITEDEC, c'est-à-dire de le renseignement d'état civil. C'est cette base de données qui donne des informations pour former le fichier.
Après l'audit du fichier électoral, la prochaine étape est la confection des cartes d'électeurs. Les travaux d'audit ont vu la participation des représentants de la classe politique, majorité et opposition, ainsi que la société civile. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée, le Ballet Citoyen, une plateforme de la société civile, est engagée dans une guerre judiciaire contre les communicants de la mouvance et de l'opposition. Une affaire qui a éclaté au lendemain des élections locales de février dernier, dont les résultats sont contestés par plusieurs partis politiques guinéens. Plusieurs personnes ont été interpellées et mises sous contrôle judiciaire. Précision de notre correspondant Zakaria Camara.
Après les élections locales du 4 février, la Guinée renoue avec les violences post-électorales et Facebook retient l'attention des Guinéens. Certains messages publiés sont jugés haineux, les auteurs accusés d'incitation à la violence. Il y a des menaces, fait remarquer le Ballet Citoyen avant d'engager une action en justice contre les communicants du parti au pouvoir et de l'UFDG, le principal parti d'opposition guinéenne. C'est Koko Nono, secrétaire administratif de la plateforme.
Nous, il fallait rappeler un peu les politiciens à l'ordre. Qu'ils cherchent que l'espace public ne les appartient pas seul, que les acteurs sociaux qui n'ont rien à voir avec la politique, qui aussi sont intéressés au bien-être des Guinéens, à la stabilité institutionnelle, politique et sociale de ce pays. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous avons dit aux gens que la société civile ne doit pas se résumer aux communiqués ou aux déclarations.
Six personnes liées aux deux plus grands partis guinéens ont été interpellées et mises sous contrôle judiciaire. Maître Faya Gabriel Kamano est l'avocat de la partie civile.
J'accorde les bénéfices de la bonne foi à la justice dans l'ensemble. Ces jeunes qui s'improvisent comme communicants des partis politiques et les partis politiques aussi les tolèrent, tiennent des propos de nature à mettre en péril l'unité nationale. Alors que la Constitution guinéenne, en son article 3, oblige les partis politiques à concourir à l'éducation politique, donc citoyenne, de leurs militants.
Cette affaire est une première en Guinée. Dans les rues de Conakry, certains citoyens, comme cette comédienne, ont accepté de se prononcer sur la question.
Pour moi, personnellement, je ne connais pas, hein. Je suis jamais parti à l'école, mais sur les réseaux sociaux, on doit se respecter. Et on doit parler ce qui est l'essentiel, mais pour t'asseoir sur les sociaux, pour parler n'importe quoi, pour insulter, vraiment, ça c'est un comportement que vraiment moi, personnellement, que je n'aime pas.
Si la démarche des activistes de la cellule Ballet Citoyen semble trouver un écho favorable, certaines personnes accusées à l'image de Corboya Baldé du parti au pouvoir se disent victimes de plaintes sélectives.
On n'est pas d'accord du fait que oui, ces propos viennent de nous. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas responsables. Ils ont franchement failli à leur objectif. Parce qu'il ne faut pas vraiment prendre des petites personnes. Parce que quand je dis petites personnes, nous les enfants, regardez ces leaders politiques aujourd'hui. Les propos qu'ils tiennent, c'est des propos responsables. Mais je ne sais pas si c'est pour se faire du nom.
Les six communicants sont interdits de quitter la capitale. La cellule Ballet Citoyen a annoncé d'autres actions contre des personnalités publiques, dont le ministre guinéen de la communication. Conakry, Zakaria Camara, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
La destination Bénin en un clic après le visa spécial touriste, le visa gratuit pour les Africains désireux de se rendre au Bénin, les autorités béninoises viennent de procéder au lancement du visa électronique. Il est disponible pour les étrangers désireux de faire un séjour de moins de 90 jours en terre béninoise. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Pour donner un coup d'accélérateur au tourisme et rendre la destination Bénin accessible à tous, le gouvernement béninois a procédé au lancement du visa électronique. Une aubaine pour ceux qui, avant de se rendre au Bénin, doivent passer par des contraintes administratives bien pesantes. Désormais, toute personne désireuse de se rendre au Bénin peut s'offrir son visa en ligne. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenouchi, donne ici plus de précisions sur les raisons qui expliquent la volonté du gouvernement à rendre le Bénin à portée de main pour tous.
L'objectif principal de la réalisation de la plateforme e-visa est de simplifier les démarches administratives pour l'ensemble des demandeurs de visa et de faire en sorte que l'on puisse réduire les pièces qui leur sont demandées et que l'on puisse réduire aussi les délais de traitement de ces demandes-là. Et je crois que la grande innovation est l'automatisation de la délivrance du visa.
Le délai de traitement est inférieur à 48 heures. La plateforme offre plusieurs avantages, dont le paiement en ligne hautement sécurisé. Une réforme majeure qu'apprécie ici le directeur de l'agence de gestion du tourisme, José Plia. Pour lui, cela rendra plus attractive la destination Bénin, c'est-à-dire booster le tourisme qui va avoir désormais une grande visibilité, ce qui va entraîner impérativement une affluence de visiteurs.
Nous, en fait, ce que nous voulons, c'est de faire du business, c'est que nous arrivons à créer de la richesse et que nous puissions faire évoluer nos entreprises. Alors si on doit faire évoluer nos entreprises, ça veut dire que nous faisons évoluer l'État du Mali, puisqu'on sera obligé de payer les taxes et l'État vivant de la fiscalité, donc il est bien évident que le travail que nous sommes en train de faire va permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ce qui est en train d'être fait.
Entre 30 000 et 100 000 francs CFA selon le pays de provenance. C'est ce qu'il faut débourser désormais pour avoir son visa en ligne. Si l'innovation semble avoir l'adhésion de tous les Béninois, certains restent tout de même préoccupés par la question sécuritaire. Pour eux, rendre la destination Bénin accessible peut donner de l'élan à l'insécurité déjà galopante avec des braquages, des kidnappings d'enfants et autres.
Il est légitime de poser la question de savoir est-ce que cela ne va pas amener des ressortissants qui n'ont pas forcément des idées bienveillantes à l'égard du Bénin. Voilà, nous sommes aussi dans le cas du terrorisme. On peut se poser la question, mais je pense qu'on peut très vite balayer du revers de la main cette inquiétude. Cela suppose que la question de la sécurité, c'est une question qui est vraiment à part. Lorsque l'État se donne les moyens de sécuriser son pays, il n'y a pas de raison que, même avec le visa ou sans le visa, si le pays ne se dote pas de moyens sécuritaires, le pays ne va pas s'en sortir.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a expliqué que c'est pour des questions de sécurité que la réforme a été pensée et mise en place. La plateforme est bilingue, anglais-français, et le visiteur dispose de trois étapes simple. Dépôt de la demande, paiement des frais et le demandeur en moins de 48 heures entre en possession de son visa chez lui. Tout ceci sur le site www.ivisa.gouv.bj. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du paludisme chez les femmes enceintes et des conséquences chez les enfants.
L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique en Afrique, provoquant des anémies maternelles, des avortements, ainsi que des faibles poids de naissance et des retards de croissance chez les nouveau-nés.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Philippe Donen de l'Université libre de Bruxelles, auteur d'une étude sur la question dans le Sud Kivu en RDC.
Nous écouterons aussi le docteur Rwamba Toussaint, médecin généraliste au Burkina Faso. Il nous parlera des moyens de prévention.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, la différence de salaire homme-femme. D'où provient-elle? Pourquoi certaines femmes gagnent-elles moins que les hommes? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001-703-350-3731. C'est au 001-703-350-3731. Contactez-nous aussi sur notre page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct pour participer. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.